Nous avons parlé de repos, moi je vais vous parler de combat. Je contraste. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de thèmes qui se recouvrent avec ce que nous a dit Jean. La parole de Dieu est paradoxale. Elle s'oppose si souvent à nos concepts et à nos raisonnements. Et le septième chapitre de Romains 7 en est une parfaite démonstration. Donc on en est au 13e volet. On a bien avancé. Et je vous propose de lire, dans la version du Semeur, ce fameux chapitre de Romains 7. Ne savez-vous pas, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi ne régit un homme que durant le temps de sa vie. Ainsi, une femme est liée par la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui l'a liée à lui. Donc, si du vivant de son mari, elle appartient à un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi, et elle peut donc appartenir à un autre sans être adultère. Il en est de même pour vous, mes frères. Par la mort du Christ, vous êtes, vous aussi, morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle, par l'Esprit, et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Que dire maintenant? La loi se confond-elle avec le péché? Loin de là. Seulement, s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Mais alors, le péché, prenant appui sur le commandement, a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais, car sans la loi, le péché est sans vie. Moi pourtant, autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est intervenu, c'est le péché qui s'est mis à vivre, et moi, je suis mort. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement qui devait me conduire à la vie m'a conduit à la mort. Car le péché a pris appui sur le commandement, il m'a trompé, et m'a donné la mort en se servant du commandement. Ainsi, la loi elle-même est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Est-il donc possible que ce qui est bon soit devenu pour moi une cause de mort? Au contraire, c'est le péché. En effet, il m'a donné la mort en se servant de ce qui est bon pour manifester sa nature de péché et pour montrer son excessive perversité par le moyen du commandement. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et ce que je déteste, c'est ce que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement esclave de la loi du péché. Une lecture un peu longue, qui était nécessaire pour nous remettre à l'esprit ce chapitre quand même assez étrange, parce qu'on s'attend toujours à la puissance, à la victoire, à un chemin qui monte vers Dieu, et dans notre expérience, on a l'impression que ce chemin est plutôt un chemin qui descend. Nous sommes arrêtés à la fin du sixième chapitre de l'Épître aux Romains pour considérer deux sujets liés à cette étude. Le dessein éternel de Dieu, qui est la raison et le but de notre marche avec lui, et le Saint-Esprit, en qui nous trouvons la force et les ressources nécessaires pour atteindre ce but. Nous arrivons à Romains 7, un chapitre que beaucoup considèrent comme étant presque superflu. Peut-être en serait-il ainsi si nous avions réellement vu que la vieille création a été mise de côté par la croix de Christ et qu'une création entièrement nouvelle a été introduite par sa résurrection. Si nous sommes arrivés au point où nous savons réellement cela, où nous nous considérons comme et où nous nous donnons nous-mêmes sur cette base-là, alors peut-être n'aurons-nous plus besoin de Romains 7. D'autres ont pensé que ce chapitre n'était pas à sa place. Ils l'auraient mis entre les 5e et 6e chapitres des Romains. Après le chapitre 6, tout est si parfait, si clair. Et voici l'effondrement et le cri « Misérable que je suis ». Peut-on voir un revirement plus brutal que celui-là ? C'est pourquoi quelques-uns prétendent que Paul décrit ici son expérience précédant sa conversion. Il nous faut admettre, en effet, qu'il parle de certaines choses ici qui ne semblent pas dans l'expérience chrétienne et que cependant beaucoup de chrétiens font ces tristes expériences. Quel est donc l'enseignement de ce chapitre ? Romains 6 nous parle de l'affranchissement du péché, Romains 7 traite de l'affranchissement de la loi. Dans le chapitre 6, Paul nous a appris comment nous pouvons être délivrés du péché et nous en avons conclu que c'était tout ce dont nous avions besoin. Le chapitre 7 nous apprend que la délivrance du péché n'est pas tout et que nous avons aussi besoin de connaître la délivrance de la loi. Si nous ne sommes pas entièrement affranchis de la loi, nous ne pourrons jamais connaître le plein affranchissement du péché. Mais quelle est la différence entre la délivrance du péché et la délivrance de la loi ? Nous comprenons tous la valeur de la première, mais éprouvons-nous le besoin de la seconde ? Or, pour apprécier cela, il nous faut d'abord comprendre ce qu'est la loi et ce qu'elle accomplit. La chair et la défaite de l'homme de Romains 7 a une nouvelle leçon à nous enseigner. C'est la découverte du fait que je suis dans la chair. Romains 7, 5. Que je suis charnel. Romains 7, 14. Et que ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Romains 7, 18. Cela va au-delà de la question du péché et est lié au problème de plaire à Dieu. Il ne s'agit pas ici du péché sous ses formes diverses, mais de l'homme dans son état charnel. La chair, il est vrai, comprend le péché, mais elle nous amène un pas plus loin, car elle nous fait faire la découverte que dans ce domaine aussi, nous sommes totalement impuissants et que ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Romains 8, 8. Comment donc arrivons-nous à cette découverte ? Par la loi. Revenons quelques instants sur nos pas, afin d'essayer de décrire ce qui est probablement l'expérience de beaucoup d'entre nous. Voici un chrétien, il est vraiment sauvé, et cependant encore lié par le péché. Il ne vit pas nécessairement tout le temps sous la puissance du péché, mais il y a certains péchés particuliers qui le harcèlent continuellement, il y succombe toujours à nouveau. Mais un jour, il entend le message complet de l'Évangile. Il entend que le Seigneur Jésus n'est pas mort seulement pour nous purifier de nos péchés, mais que lorsqu'il est mort, il nous a inclus, nous pécheurs, dans sa mort. Ainsi, non seulement nos péchés ont été effacés, mais nous-mêmes aussi, nous avons été crucifiés. Ses yeux se sont ouverts et il sait qu'il a été crucifié avec Christ. Deux choses suivront cette révélation. En premier lieu, ils se considèrent comme morts et ressuscités avec le Seigneur, et en second lieu, ils s'offrent à Dieu comme vivant d'entre les morts. Ils voient qu'il n'a plus aucun droit sur lui-même, et c'est le commencement d'une belle vie chrétienne, pleine de louanges devant le Seigneur. Mais ensuite, il se met à réfléchir dans ce sens. Je suis mort avec Christ, et je suis ressuscité avec lui. Je me suis donné à lui pour toujours. Je dois maintenant faire quelque chose pour lui plaire, puisqu'il a tant fait pour moi. J'aimerais lui plaire et faire sa volonté. Ainsi, après le pas de la consécration, il cherche à découvrir la volonté de Dieu pour lui obéir. C'est alors qu'il fait une étrange découverte. Il pensait pouvoir accomplir la volonté de Dieu, il pensait l'aimer, mais il s'aperçoit peu à peu qu'il ne l'aime pas toujours. Il éprouve même parfois une nette répulsion à son égard, et très souvent, lorsqu'il s'efforce de l'accomplir, il trouve qu'il en est incapable. Il commence alors à douter de son expérience. Il se demande, est-ce que j'ai réellement connu la révélation ? Oui. Est-ce que j'ai réellement accepté le fait pour moi ? Oui. Est-ce que je me suis réellement donné au Seigneur ? Oui. Est-ce que je serais revenu sur ma consécration ? Non. Alors d'où vient la difficulté ? Et plus cet homme cherche à faire la volonté de Dieu, plus il lui semble s'en éloigner. Il arrive, pour finir, à la conclusion qu'il n'a jamais réellement aimé la volonté de Dieu. Il se met donc à prier pour avoir le désir d'aimer la volonté et le pouvoir de l'accomplir. Il confesse sa désobéissance et promet de ne plus jamais désobéir. Mais à peine se relève-t-il, après avoir prié à genoux, qu'il retombe une fois de plus. Avant d'arriver à la victoire, il est conscient de la défaite. Il se dit alors, peut-être ma dernière décision n'était-elle pas assez précise. Cette fois, je vais être absolument catégorique. Il s'efforce donc de concentrer toute sa force de volonté pour arriver à l'obéissance. Mais ce ne sera que pour rencontrer une plus grande défaite, dès qu'il y aura un nouveau choix à faire. Il fait alors écho dans son cœur aux paroles de Paul. En effet, je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de l'accomplir, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Romains 7, versets 17 et 19. Beaucoup de chrétiens se trouvent soudain lancés dans l'expérience de Romains 7 sans en comprendre la raison. Ils s'imaginent que Romains 6 est tout à fait suffisant. Puisqu'ils l'ont accepté, ils pensent qu'il ne peut plus être question de chute, et à leur grande surprise, ils se trouvent souvent dans Romains 7. Comment expliquer cela ? Il faut d'abord qu'un point demeure bien clair pour nous, c'est que la mort avec Christ, que nous décrit Romains 6, est pleinement suffisante pour répondre à tous nos besoins. C'est l'explication de cette mort, avec tout ce qui en découle, qui est incomplète dans ce chapitre 6. Nous y restons encore dans l'ignorance de la vérité exposée dans le chapitre 7. Romains 7 nous est donné pour expliquer et rendre réelle la déclaration faite dans Romains 6, 14. Le péché ne dominera point sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes en difficulté parce que nous ne connaissons pas encore la délivrance de la loi. Quelle est donc la signification de la loi ? La grâce signifie que Dieu fait quelque chose pour moi. La loi signifie que je fais quelque chose pour Dieu. Dieu a certaines exigences de sainteté et de justice que je suis appelé à remplir. C'est la loi. Or, si la loi signifie que Dieu me demande d'accomplir certaines choses, la délivrance de la loi signifie qu'il ne me le demande plus parce qu'il y a pourvu lui-même. La loi signifie que Dieu me demande de faire quelque chose pour lui. La délivrance de la loi signifie qu'il m'exempte de le faire parce que dans sa grâce, il le fait lui-même. Je, c'est-à-dire l'homme charnel de Romains 7, 14, n'a besoin de rien faire pour Dieu. C'est la délivrance de la loi. Les difficultés dans Romains 7 viennent de ce que l'homme, dans la chair, s'efforce de faire quelque chose pour Dieu. Dès que l'on essaye de plaire à Dieu par ce moyen, on se place sous la loi et l'expérience de Romains 7 devient nôtre. Tandis que nous cherchons à comprendre cela, soyons tout d'abord certains que la faute ne vient pas de la loi. Paul dit « La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon » Romains 7, 12. Non, il n'y a rien de mauvais dans la loi, mais il y a quelque chose de résolument mauvais en moi. Les exigences de la loi sont justes, mais la personne qui doit y satisfaire est mauvaise. La difficulté ne vient pas de ce que ces exigences sont injustes, mais du fait que je suis incapable de leur obéir. Je suis un homme vendu au péché. Romains 7, 14. Le péché domine sur moi. Tant qu'on me laisse tranquille, je peux paraître un homme de bien. C'est lorsqu'on me demande de faire quelque chose que ma nature de péché se manifeste. Supposons que vous ayez un serviteur maladroit et qu'il reste simplement assis sans rien faire. Sa maladresse ne paraîtra pas. S'il ne fait rien durant toute la journée, il vous sera de peu d'utilité, c'est vrai, mais il ne causera aucun dégât. Par contre, si vous lui dites « Allons, viens, ne perds pas ton temps, lève-toi et fais quelque chose », alors les difficultés commencent. Il renverse la chaise en se levant, trébuche sur un tabouret quelques pas plus loin et brise une ficelle de prix dès qu'il la touche. Si vous ne lui demandez rien, sa maladresse ne se remarque pas. Mais dès que vous lui confiez une occupation, sa gaucherie se manifeste aussitôt. Les exigences étaient justes, mais l'homme ne valait rien. Il était aussi maladroit lorsqu'il était assis que lorsqu'il travaillait. Mais ce sont vos exigences qui ont révélé la maladresse qui lui est inhérente, qu'il soit actif ou inactif. Nous avons vu dans nos précédentes méditations que nous sommes tous pécheurs par nature. Si Dieu ne nous demande rien, tout semble être bien. Mais aussitôt qu'il exige quelque chose de nous, l'occasion nous est donnée de manifester notre nature de péché. La loi met donc en évidence notre faiblesse. Tant qu'on me laisse tranquille, je parais juste et bon. Mais si l'on exige quelque chose de moi, je suis sûr de mal faire. Lorsqu'une loi sainte est appliquée à un homme pécheur, son état de péché se manifeste pleinement. Dieu sait qui je suis. Il sait que de la tête aux pieds, je ne suis que péché. Il sait que je suis la faiblesse en personne, que je ne puis rien faire. Le malheur, c'est que moi, je ne le sais pas. J'admets que tous les hommes sont pécheurs et que par conséquent, je suis un pécheur. Mais je ne m'imagine pas être un pécheur aussi mauvais que les autres. Il faut que Dieu nous amène à la place où nous nous voyons entièrement faibles et impuissants. Bien que nous en parlions, nous ne le croyons pas encore tout à fait. Et Dieu doit faire quelque chose pour nous convaincre de ce fait. Sans la loi, nous n'aurions jamais connu la mesure de notre faiblesse. Paul en était arrivé là. Il montre cela clairement lorsqu'il dit dans Romains 7, 7 « Je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Quelle qu'ait été son expérience à l'égard des autres commandements, ce fut en tout cas le dixième, dont la traduction littérale serait « Tu ne désireras point », qui lui fit découvrir sa véritable nature. C'est là qu'il vit sa faillite et son incapacité totale. Plus nous nous efforçons d'efforcer la loi, plus notre faiblesse devient manifeste, et plus profondément aussi nous nous enfonçons dans Romains 7, jusqu'à ce que nous soyons entièrement convaincus de notre faiblesse incurable. Dieu savait tout cela, mais nous, nous l'ignorions. Et c'est pourquoi il nous fait traverser des expériences douloureuses pour nous amener à reconnaître ce fait. Il faut que nous ayons la preuve incontestable de notre faiblesse. C'est pourquoi Dieu nous a donné la loi. Aussi pouvons-nous dire avec respect que Dieu ne nous a jamais donné la loi pour que nous l'observions. Il nous a donné la loi pour que nous la transgressions. Il savait bien que nous étions incapables de l'observer. Nous sommes si mauvais qu'il ne nous demande aucune faveur et n'attend aucun service. Jamais aucun homme, si ce n'est Jésus, n'a réussi à se rendre agréable à Dieu par le moyen de la loi. Il est dit nulle part aux hommes de foi, dans le Nouveau Testament, d'observer la loi. Mais il est dit que la loi a été donnée afin qu'il y ait transgression. La loi est intervenue afin que la faute abonde. Romains 5, 20. La loi a été donnée afin de faire de nous des transgresseurs. Il n'y a aucun doute, je suis un pécheur en Adam. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car sans la loi, le péché est mort. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie, et moi je suis mort. Romains 7, versets 7 à 9. La loi est ce qui révèle notre vraie nature. Hélas, nous sommes si vaniteux, et nous nous croyons si forts, que Dieu doit nous faire traverser une épreuve qui nous démontre combien nous sommes faibles. Quand enfin nous le voyons, nous confessons « Je suis un pécheur jusqu'au plus profond de moi-même et je ne puis rien faire par moi-même pour plaire à Dieu. » La puissance du péché, c'est la loi. 1 Corinthiens 15, 56. Le péché ne sera plus votre maître puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi mais sous celui de la grâce. Romains 6, 14. Non. La loi n'a pas été donnée dans l'espoir que nous pourrions l'observer. Elle a été donnée dans la pleine connaissance qu'elle serait transgressée. Et lorsque nous l'avons si pleinement transgressée que nous sommes convaincus de notre misère extrême, la loi a accompli son but. Elle a été notre pédagogue pour nous amener à Christ, afin que lui-même, il l'accomplisse en nous. La loi a été donné comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Galates 3, versets 24 et 25. Alors c'est un gros morceau, Romains 7. La leçon est simple, elle est peut-être plus difficile à digérer. Et la semaine prochaine, nous poursuivrons cette méditation en approfondissant notre expérience dans Romains 7. Je vous remercie.
J'ai connu un frère, un théologien, on peut dire, qui disait « Dieu n'a aucun programme d'amélioration de la chair. » C'est tranchant, mais c'est très vrai. Il n'a pas de programme pour améliorer la chair. Donc il nous faut y renoncer.